Bonjour Pouria Mirchaï.
Bonjour.
Vous êtes né en Iran, vous y avez passé les premières années de votre enfance, c'est un pays que vous connaissez bien. L'Arabie Saoudite a rompu hier ses relations diplomatiques avec l'Iran après l'attaque et l'incendie de son ambassade à Téhéran en réaction à l'exécution par l'Arabie d'un dignitaire religieux chiite. Est-ce qu'il faut aujourd'hui s'inquiéter de l'évolution de la situation sur place dans la région ?
Oui, je pense qu'elle est grave et même elle s'étend au-delà de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, y compris sur l'Est, quand on voit les tensions qui existent aujourd'hui en Afghanistan et en Inde. Mais je vais m'arrêter sur le conflit pour l'instant, sur la dispute qui peut être très grave entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. D'abord parce que on n'y comprend peut-être trop rien à distance, de pays musulmans qui s'affrontent depuis longtemps, de puissances rivales. Mais dans cette affaire-là, il faut bien comprendre l'immense responsabilité entre deux régimes qui sont peu recommandables, même si l'Arabie Saoudite, pour reprendre la formule de l'autre, c'est quand même un Daesh qui a réussi, qui a un système interne très très dur. L'Arabie Saoudite a pris la décision de tendre durement avec l'Iran, ce qui est une faute politique majeure, au moment où on avait des négociations qui permettaient non seulement de trouver une solution en Syrie, ce qui était quand même indispensable, mais aussi une stabilité régionale globale dès lors que l'Iran avait renoncé, je le rappelle, à
l'arme nucléaire.
Là, l'Arabie Saoudite rentre dans une course à la violence, une course de confrontation politique en exécutant un dignitaire chiite, c'est-à-dire dans le clergé chiite, quelqu'un de haut placé dans la hiérarchie de leur église. Et du coup, les Saoudiens savaient parfaitement que ça allait avoir des répercussions dures et durables. Il faut maintenant espérer qu'elles ne soient pas définitives, et surtout que les diplomaties internationales, l'ONU en particulier, mais la France, puisque c'est notre pays, fassent tout ce qu'il faut pour ramener un peu de tension.
Or, la position de la France aujourd'hui, qui est très proche de l'Arabie Saoudite, qui a en même temps participé aux négociations justement sur le nucléaire iranien, c'est une position compliquée, un peu schizophrénique en quelque sorte, ou au contraire avantageuse pour jouer un rôle d'apaisement dans cette crise.
C'est une position qui a été trop longtemps déséquilibrée, qui l'est encore en faveur de l'Arabie Saoudite. J'ai toujours dit que c'était à mon avis une erreur, et on a vu comment ça s'est traduit. Des ventes d'armes, je crois que c'est le pays dans lequel la diplomatie française est le plus rendue depuis 2012. Bon, donc ça a du sens. À toute chose, malheur est bon, j'espère au moins que cette relation va permettre de ramener un peu de raison dans la diplomatie saoudienne, pour qu'elle comprenne que c'est tout son intérêt de calmer le jeu et de trouver les voies et moyens d'une stabilité, plutôt que de construire la grande ambition saoudienne, une grande coalition sunnite contre les chiites qui ne ferait qu'empirer la situation.
La gauche est profondément divisée sur la question de la déchéance de nationalité. Vous êtes de ceux qui y sont radicalement opposés. Il en sera question dès ce soir au bureau national du Parti Socialiste. Est-ce que c'est un débat, un sujet qui aujourd'hui menace de faire exploser ou imploser le Parti Socialiste ?
En tout cas, le divise profondément. Ça peut avoir, oui, des conséquences durables et des désamours définitifs entre les socialistes et l'exécutif qui s'entêtent dans une mesure assez incompréhensible.
J'observe que vous faites le distinguo entre socialiste et exécutif.
Oui, bien sûr.
L'exécutif n'est pas socialiste.
En tout cas, c'est une mesure qui ne l'est pas. Ouais. Celle-ci, comme d'autres, d'ailleurs. Il y a au moins ceux qui l'assument et qui le revendiquent et qui disent que le socialisme ou que la gauche est d'un autre temps, M. Macron, quelques autres d'ailleurs, dont je ne suis pas sûr qu'il approuve la déchéance de nationalité d'ailleurs, des socialistes qui sont quand même liés à des engagements, à des valeurs, à une histoire et à des promesses de progrès pour demain et d'égalité. Or on parle bien là de rupture d'égalité, la déchéance de nationalité, pour un même crime, entre ceux qui seraient français et ceux qui seraient français plus autre chose, dans les peines qu'ils encourraient s'ils étaient pris dans les mains de la justice. Donc, c'est un cas de dispute, mais c'est un cas de dispute d'autant plus grave sur les valeurs qu'il est stupide, puisque, comme le dit Manuel Valls lui-même, c'est symbolique. Donc, c'est-à-dire qu'on, en gros, on modifie la Constitution, notre loi fondamentale, comme ça, dans l'urgence, dans l'émotion. Pourquoi 5 personnes, 10 personnes, alors qu'on a besoin de rassembler le pays, des millions de Français sur autre chose.
Alors, vous parlez de rassemblement. Vous savez que les Français, ils sont largement majoritaires à cette mesure. 85%, 86% même, ça dépend des sondages. Et une partie très importante des sympathisants socialistes, environ 80%, ils sont également favorables. Vous n'êtes pas en décalage, vous, finalement, aujourd'hui, avec l'opinion publique, avec le peuple ?
Je suis peut-être en décalage avec l'humeur du moment. C'est sans aucun doute. Je crois pas beaucoup à l'opinion. Et puis, je ferai une réponse, pardon, aussi, comment dire, légère que la question. C'est-à-dire que si François Mitterrand avait tenu compte des sondages, il n'aurait pas aboli la peine de mort. Bon. Donc, peu m'importe, à la limite, la façon dont une partie de l'opinion peut s'exciter ou s'énerver. On l'énerve d'ailleurs de plus en plus, et c'est un tort, à mon avis, par ce genre de mesures. Ce qui compte, c'est de rester serein, de garder son sang-froid. J'ai l'impression qu'on en perd beaucoup après les attentats.
Certains aujourd'hui proches de François Hollande réfléchiraient à une autre hypothèse qui serait ce qu'on pourrait appeler finalement la déchéance pour tous, c'est-à-dire y compris les Français qui n'ont qu'une nationalité, la nationalité française. C'est une solution qui vous paraîtrait plus acceptable dans le sens où elle n'aurait, il n'y aurait pas de rupture d'égalité, pour reprendre le terme que vous employez?
Non, mais parce que là, on est dans le délire pénal, dans le délire presque vengeresque. C'est ça, c'est dans ce sens-là que je vous parle d'émotion, qui, à mon avis, n'est pas bonne conseillère. Vous savez, on a 19 lois antiterroristes depuis 1986. 19, c'est pas rien. On est un des pays les plus avancés dans le domaine. On a, dans deux articles du Code pénal, en cas d'intelligence avec l'ennemi, direct ou indirect, des dispositions très précises qui montrent que on est passible de 25 ans d'emprisonnement et de 450 000 euros d'amende. Donc on a de quoi, largement, sévir lorsque les terroristes se font attraper. Car de quoi on parle? De terroristes qui se font choper. Oui. Quand ils se font choper, personne les laisse en liberté. On les remet pas comme ça en liberté. Ils sont en prison, durablement, et largement surveillés. Donc là, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose qui dépasse la raison de la justice et qui est de l'ordre de la démagogie de l'opinion, en effet, et ça m'inquiète.
Lors de ses vœux, jeudi soir, pour ses vœux de nouvel an, François Hollande a annoncé de nouveaux efforts pour l'emploi, notamment un vaste programme de formation. Vous y croyez encore?
Bah, j'y crois toujours dans la mesure où je me dis que il faut le faire. Maintenant, comment dire, si c'est avec les mêmes moyens, les mêmes stratégies économiques, les mêmes alliances, je vois pas comment on y arrive, puisque les mêmes résultats produisent les mêmes effets. Maintenant, la formation, c'est la réactualisation d'une ancienne promesse. Tant mieux, s'il y en a d'autres qui peuvent être réactualisés dans bien des domaines, je serai le premier à applaudir. Donc il faut encourager ça. Il faut voir quel est le rôle de l'État dans cette mesure, parce que l'État n'est pas directement engagé. Ce sont les régions pour la formation professionnelle. Ce sont les partenaires sociaux pour la formation professionnelle, et ce sont les régions pour l'apprentissage. Bon, donc il faudrait aussi que l'État joue son rôle pleinement d'impulsion, et pas, ne renvoie pas, ne se contente pas de renvoyer à d'autres la responsabilité principale de réduire les inégalités sociales dans ce pays.
Merci pour Yann Mershahi.
Merci à vous.
Bonne journée.
Pour Yann Mershahi, député socialiste des Français établis hors de France, interrogé par Frédéric Rivière.